وفيمينا.
Chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'inimitable émission interactive de VO Afrique, Le Monde au Féminin. Réduction de la mortalité maternelle et infantile. Quel progrès réalisé en Afrique ces dernières années et comment améliorer les conditions des femmes enceintes et de leurs enfants afin de leur permettre de rester en vie. Alors nous avons ici dans le studio avec nous une invitée experte en santé publique et gestion des systèmes de santé, le docteur Sona Konaté, directrice médicale et vice-présidente de Seal of Hope, basée dans le Maryland aux USA, avec des antennes en Guinée et au Mali. Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci Nathalie.
Alors, vous avez travaillé dans les deux hôpitaux publics de Conakry, hein, donc à Ignasdine. Vous avez été chef du département médical de l'OIM en Guinée et vous avez notamment, hein, entre autres, facilité en 2003 la branche médicale de Nzérékori en Guinée forestière. Donc, on sait que vous avez une grande expérience, hein, sur la question. Dans un premier temps, docteur, est-ce que vous pourriez nous faire un petit bilan, finalement, des progrès qui ont été réalisés donc en matière de mortalité maternelle et infantile?
Absolument. Merci beaucoup, Nathalie. C'est mon plaisir d'être avec vous ce soir sur ce plateau. La maternité maternelle et infantile est un sujet très, très délicat parce qu'il y va de la vie des mamans, des enfants. Donc, dans le monde entier, c'est un problème qui sévit un peu dans tout le monde, en effet, mais 99% des problèmes liés à la mortalité infantile et maternelle s'avèrent être dans les pays sous-développés. Donc, cela veut dire déjà que c'est lié à des raisons économiques, à des raisons structurelles et à des raisons surtout liées au système de santé, système sanitaire dans ces pays-là.
Et les 90%, ça veut dire en quelque sorte que finalement, dans les pays industrialisés, on est arrivé à résoudre ce problème plus ou moins, parce qu'il ne reste que 10%, donc c'est des cas particuliers en fait.
99% dans les pays sous-développés.
Ah, c'est 99%. Ah bah
voilà.
Oui, en plus, c'est donc il reste 1%, c'est encore moins.
1%, ouais. Voilà. Mais vous serez surprise de le savoir, mais même ici, dans le Maryland où je vis, le problème de mortalité féminine, mais quand même mortalité maternelle, reste quand même un problème. Malgré ce faible pourcentage, ça reste quand même un problème.
Vous avez travaillé dans l'hôpital, alors dans les hôpitaux publics à Conakry, donc à Ignasdine. Oui. Vous pouvez nous parler des conditions matérielles, peut-être, hein, les questions sanitaires dans les hôpitaux. Est-ce qu'on a vraiment tout ce qu'il faut dans ces hôpitaux-là?
Moi, en tant que médecin interniste, j'ai eu l'occasion de faire un petit séjour à la maternité et travailler à la maternité de l'hôpital d'Onka. Et donc, les conditions n'étaient pas du tout faciles, pas du tout faciles, parce que d'abord, dû d'abord au personnel d'abord de santé, je pense, qui est bien formé pour la plupart.
Ouais.
Mais je pense que la présence d'un effectif assez un effectif qui correspond aux besoins de la population. Il y a pas assez de personnel pour couvrir toute la population.
Manque de personnel.
Et bon, je voudrais pas rentrer dans les détails, mais peut-être aussi dû au problème personnel aussi que le personnel sanitaire aussi dont ils font face. Donc certains sont peut-être obligés de faire d'avoir d'autres occupations, et donc les hôpitaux publics,
les salaires,
les hôpitaux aussi publics aussi souvent ne sont pas fournis comme ils se devraient.
Oui.
Voilà, pour le fait qu'il y a beaucoup aussi qui ont des doubles
emplois.
Dans
le privé, en général, on est mieux fourni
absolument. Les statistiques nous montrent que 64% des prises en charge sont faites dans le secteur public. Et parce que le secteur public, bien sûr, que c'est lucratif, on doit payer. Mais il y a plusieurs personnes qui préfèrent s'adresser au secteur public pour avoir les soins qu'il faut et aussi l'assistance nécessaire au moment du, vous savez,
dans le privé, voilà.
Parce que le public, souvent, n'est pas, ne réussit pas à faire face à tous les besoins des populations.
Pour revenir sur le bilan rapidement, l'Afrique, quels sont les pays les plus touchés par la mortalité maternelle ou même dans le monde, si vous le savez?
Dans le monde, nous avons ces deux grandes nations. Qui sont le Nigeria et l'Inde, qui sont les plus touchés par la mortalité maternelle et infantile. Et voilà. Et
donc même en pourcentage, c'est pas seulement parce qu'ils sont très, il y a beaucoup de gens là-bas, c'est des grands pays comme vous l'avez dit.
Bon, peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, et peut-être aussi par le manque de statistiques aussi d'autres pays. En fait, on peut pas faire de statistiques très claires parce qu'on se fie plutôt souvent à des programmes statistiques plutôt qu'à des données réelles parce que y a, c'est pas tous les pays qui sont en mesure de fournir des données réelles.
Ouais.
Peut-être vu au manque de de ces capacités là sur le terrain.
Et la Guinée, ça a un petit peu progressé ces dernières années.
La Guinée, si on le met dans le contexte global général, la mortalité en fait maternelle a beaucoup progressé en fait dans le monde entier. On a vu une amélioration de 1990.
C'est plutôt le progrès.
Il y a moins. Progresser. Il y a moins de mortalité maternelle.
Ok.
Voilà. À regresser, c'est ça. La mortalité maternelle a regressé en général dans le monde. Et donc en Guinée aussi. Mais il y a beaucoup de progrès à faire quand même.
Oui, c'est ça. Oui.
Tant qu'on n'est pas à 100%, il y a toujours des progrès à faire.
Oui, non, mais le pourcentage est encore élevé.
Voilà,
en
de 43%, ça a quand même baissé. Ben, et donc nous sommes sur la bonne voie. Voilà.
Dans la presse.
Une Indienne de 10 ans victime de viols répétés par son beau-père a été autorisée à avorter après le dépassement du délai légal pour une IVG. La cour a décidé de s'en remettre à l'avis d'un conseil de médecins et les médecins ont décidé de pratiquer l'intervention volontaire de grossesse, a déclaré un porte-parole de la police, donc rapporte l'AFP. L'Inde a un triste bilan en matière de violence sexuelle. Dans la seule capitale, on compte une moyenne de 6 viol par jour. Une commission de l'ONU sur les droits de l'enfant s'était alarmée en 2014 de la fréquence des abus sexuels commis sur des enfants, déclarant qu'une victime de viol sur 3 en Inde était mineure. Nous sommes avec le docteur Sona Konaté pour parler donc de la mortalité infantile et maternelle, pour voir un petit peu. Donc docteur, vous, selon vous, quels sont vraiment les problèmes qu'on rencontre pour justement ne pas arriver à améliorer cette situation-là, s'il vous plaît? Je vais vous demander, il faudrait arrêter votre téléphone portable, parce que merci beaucoup. Donc voilà, qu'est-ce qui nous manque en fait pour, parce que bon, en Afrique, il y a encore des gros problèmes de mortalité maternelle infantile, beaucoup d'enfants aussi qui meurent avant 5 ans. On a fait des progrès, c'est vrai, tout le monde le dit, l'ONU le dit, etc. Mais c'est pas ça encore, quoi. Donc qu'est-ce qu'il faut faire?
Ce qu'il faut faire. Donc le premier problème, c'est l'accès aux soins sanitaires. Quand nous parlons d'accès, déjà l'accès physique d'abord, il y a beaucoup de personnes en besoin de soins sanitaires qui habitent dans des zones vraiment rurales, très difficiles d'accès. Donc le fait d'arriver déjà à un centre de santé, c'est un problème. Donc les soins, le soin prénatal qui est très très important aussi, n'est pas fourni aux femmes. Et donc les coûts aussi. Il y a par exemple une étude du London School of Public Health, de l'école de santé publique de Londres et d'hygiène, qui a montré que si on annulait les soins de santé dans 20 pays d'Afrique, la mortalité maternelle et infantile se réduirait de 230 000. On pourrait éviter 230 000 morts. C'est-à-dire que les coûts aussi sont un problème. Parce que quand il y a des coûts, les gens n'y vont pas. Et donc, ça aussi, c'est un problème. Donc, les femmes.
Donc, on n'arrive pas à ce système de gratuité dans la plupart des pays. Mais pourtant, la Guinée, par exemple, la Guinée n'avait pas dit que ce serait gratuit pour les femmes, l'accouchement,
les
soins de maternité.
La volonté y est là. Je crois que les autorités sanitaires, le gouvernement a vraiment de bonnes intentions de rendre les soins maternels gratuits, surtout pour l'accouchement. Mais la réalité est souvent différente. Donc, les femmes ont souvent recours à les accoucheuses peut-être à la maison, aux cliniques qui ne sont pas souvent légales. Et c'est ce qui occasionne souvent pour l'incompétence du personnel de santé à qui ils ont accès ou bien aussi au coût qui leur prévient d'aller vraiment essayer de chercher des soins vraiment propres qui pourraient leur faire faire un accouchement sain et sauf. Ouais. Donc ce sont ces problèmes financiers aussi qui sont aussi une très grande partie du...
Ouais. On voit qu'il y a une tendance aussi en Afrique où l'on essaie de former de plus en plus les sages-femmes et où l'on demande aux mamans, aux futures mamans, d'aller à l'hôpital et de pas accoucher à la maison.
Voilà, c'est ce qui serait vraiment fondamental et crucial si les mamans pouvaient vraiment aller vers les soins de santé. Mais la réalité est tout à fait différente. Vous voyez, les moyens ne sont souvent pas là pour se permettre de faire cela. L'accès, comment arriver au centre de santé et une fois arrivé sur place, les coûts, les coûts.
Et comment la prise en charge?
La prise en charge aussi.
La prise en charge.
Vous voyez. Oui. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Par exemple, nous avons, les objectifs de développement des prochaines années prévoit vraiment une lutte pour pouvoir diminuer la santé maternelle et infantile. Maintenant, là, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. C'est pas seulement au niveau du gouvernement, aussi au niveau aussi de la population, et si au niveau aussi des autorités de santé aussi internationales, dont l'apport aussi est très, très important pour aider à l'application de tous ces...
Absolument.
Voilà.
Parole de femme.
Réduire le taux de mortalité maternelle et infantile au Togo est un des objectifs de l'ONG Alafia. Notre correspondante Kay Lawson s'est rendue dans le centre du pays où des mères et futures mères sont prises en charge. On l'écoute.
Dans les préfectures de Tchadjo et de Tchamba, situées au centre du Togo, certaines femmes sont particulièrement exposées au risque de complications lors de l'accouchement. Et pour cause, elles sont soit excisées, soit financièrement vulnérables. Conscient de cette vulnérabilité, grâce à son volet santé maternelle, Guess s'occupe de la prise en charge médicale des parturientes et de leur accouchement. Hortense Santos, directrice nationale des opérations d'appui communautaire à l'ONG Alafia.
Nous prenons en charge les femmes enceintes démunies, mais aussi les femmes excisées. Lorsque ces femmes tombent enceintes, aller se faire consulter déjà, c'est un gros problème. Donc tout ce qui est organisé par Alafia, c'est d'aider ces femmes à avoir les bonnes informations, mais aussi à les appuyer, parce qu'au niveau financier, elles ont effectivement des difficultés, à les appuyer pour que leur process se passe au mieux.
Depuis le début de ses activités en 2012, le programme GUESS a apporté son assistance à près de 5000 femmes enceintes dans les deux préfectures qui constituent sa zone de couverture. Marlène Tagba, 45 ans, mère de 4 enfants, fait partie des bénéficiaires de GUESS.
J'ai 4 enfants. Ma deuxième session a été difficile pour moi. C'est que je n'avais pas la possibilité pour me consulter et j'étais à la maison. Lors de l'accouchement, le nouveau-né était mort. Maintenant que la troisième session, le projet à la fin était là, les agents de l'ISP m'ont averti. Ils m'ont pris en charge pour aller à l'ISP. On m'a fait consulter. Maintenant que j'ai accouché dans les bonnes conditions et mon bébé est en vie.
La finalité des actions communautaires que mène l'ONG à la fin dans les préfectures de Tchamba et de Tchadjo est non seulement de permettre à ces femmes d'être en bonne santé, mais aussi de les autonomiser financièrement afin qu'elles puissent devenir des reines. Kay Lawson, Sokoré, VOA Afrique.
Docteur Sona Konaté, vous avez pris des petites notes, j'ai vu, il y a des choses importantes à dire. Je vous écoute. Oui.
Voilà, je voulais parler un peu de la mortalité infantile aussi.
Ouais.
Voilà, genre la mortalité infantile aussi et des enfants de moins de 5 ans surtout est très très importante. Il y a de gros progrès qui ont été faits. Et donc c'est vraiment quelque chose aussi qui est aussi lié à la prise en charge des femmes aussi enceintes.
Il y a une meilleure prise en charge.
Absolument. Parce que la majeure partie aussi des mortalités infantiles sont liées à des causes qu'on peut tout à fait éviter.
Ouais,
prise en charge
exemple.
De la maman. Genre aussi les diarrhées qui sont dues aussi à des infections, l'eau potable, l'hygiène.
Ouais, mais ça, c'est encore pas tout à fait réglé, justement, l'eau potable en Afrique.
L'eau potable.
On n'y a pas vraiment accès partout, hein.
On a accès partout. Ouais. En fait, mon ONG.
Donc, comme vous le dites, on ne peut pas régler ces questions de mortalité infantile et maternelle si on ne règle pas ces problèmes d'eau potable déjà.
C'est ce que je dis. Ouais. Multisectoriel. Santé publique, c'est multisectoriel, multifactoriel. On ne peut pas régler avec seulement des soins de santé. Non, c'est l'eau, c'est l'économie, la santé financière aussi, c'est l'autonomie financière, la prise en charge et donc l'éducation aussi. Donc, c'est tout un mélange de facteurs qui doivent être mis sur l'échiquier pour pouvoir vraiment affronter ces problèmes cruciaux-là. Donc,
Vous-même, en tant que médecin, dans les accouchements en Afrique, qu'est-ce que vous avez remarqué le plus qui vous aurait frappé les difficultés notamment, vous m'avez parlé tout à l'heure, par exemple, des césariennes et du rendement.
Absolument.
Expliquez-nous ça un petit peu.
Bon, ça, c'est une anecdote personnelle, hein.
Oui.
Pour incriminer personne, mais en tant que médecin, ça, il s'est déjà passé qu'il y a des collègues qui ont préféré faire une césarienne au lieu d'un accouchement normal parce que c'était un peu plus cher et ce serait un peu plus rentable.
C'est terrible.
Ça, c'est terrible. C'est déplorable, mais ça se passe. Ça se passe. Et aussi.
Et c'est un peu partout, vous dites en plus, c'est pas seulement en Afrique.
C'est un peu partout, pas seulement en Afrique.
C'est une tendance.
Une tendance.
Dans le milieu
même
médical.
Dans des pays occidentaux plus développés.
Comme ça, on n'attend pas éternellement la fin des contractions ou des choses comme ça.
Voilà, voilà. C'est ça.
Donc en fait, on libère des places pour
Des places, on fait peut-être un peu plus de bénéfices, un peu plus d'argent. Voilà. Ouais. On évite aussi après les complications. Au niveau de l'enfant. Et donc, en tout cas, il y a tout un facteur.
Mais les césariennes, en plus, tout dépend comment c'est pratiqué dans certains endroits. Et après, il y a des risques d'infection aussi. Donc, il faut que ce soit bien pratiqué quand
absolument,
même.
Absolument, absolument. Ouais. Je crois qu'il faudrait faire une étude. Pourquoi il y a des
autant de césariennes
qui choisissent systématiquement de faire une césarienne. Voilà. Parce que c'est extraordinaire, c'est déplorable, mais ça se passe. Voilà. Et donc, ce sont des...
Si jeunesse pouvait.
La Fédération internationale de basket a autorisé le port du voile dès le mois d'octobre. Au Sénégal comme ailleurs, cette décision n'est pas acceptée par tous. Seydina Abagay a tendu son micro à une joueuse. On l'écoute.
L'interdiction du port du voile a pendant longtemps empêché l'éclosion de talents très prometteurs, à l'instar de Khoureidia. Il y a quelques années, cette jeune prodige du basketball sénégalais a renoncé, malgré elle, à la belle carrière qui lui tendait les bras.
En optant pour le voile, j'ai progressivement arrêté mes entraînements contre l'avis de mes coachs. J'étais très douée et promis à un bel avenir dans le basket. C'est pourquoi personne ne voulait que je renonce. Mon coach de l'époque, Bengali Kaba, a tout fait pour me convaincre. Mais je lui ai dit que le basket et le voile n'allaient pas ensemble, car même si je continuais les entraînements, je n'aurais pas pu compétir avec un foulard sur la tête. C'est ainsi que j'ai purement et simplement renoncé au basket pour suivre les recommandations de ma religion.
Désormais, l'instance mondiale du basket donne carte blanche au voilé. Une décision que certains amateurs du beau jeu fustigent.
Pour moi, c'est une chose absurde. Voilà, on peut pas... En fait, le basket a ses origines. Et si on autorise le port du voile, qui sait demain qu'est-ce qu'on va autoriser, quoi. Ça va gâcher le plaisir de voir les joueuses avec le visage défiguré, tout ça, les cheveux détressés, tout ça, de jouer au basket. C'est ça qu'on sait, quoi. C'est ça qu'on voit tous les jours. Et si on autorise le port du voile, je pense que ça va mettre un coup sur le charme du basket, ça c'est sûr.
Maguette Diop, directeur technique national et formateur en basket féminin, ne partage pas cet avis. Pour lui, cette autorisation va rendre le basket plus inclusif.
Moi je pense que cela n'est pas du tout une absolutité. Tout au contraire, c'est que peut-être et le basket et ce joueur-là, peut-être tout en respectant la pratique religieuse de tout un chacun.
Babacar Ndiaye, président de la Fédération sénégalaise de basket, estime que cette mesure ouvre plusieurs perspectives.
Sur le plan sportif, ça permet quand même au basket d'être joué par un plus grand nombre de personnes, ce qui va contribuer à son développement.
Même si la décision de la FIBA ne fait pas encore l'unanimité, elle permettra de réparer certaines injustices. En 2014, l'équipe féminine du Qatar avait renoncé à participer aux Jeux asiatiques après que le port du voile sur le terrain a été refusé à ses joueuses. Seydina Aba Gueye à Dakar pour VOA Afrique.
Et oui, et si la jeunesse pouvait.
Docteur Sona Konaté, dans la mortalité maternelle et infantile, on a souvent les problèmes aussi des jeunes filles, des grossesses précoces. On sait que dans ce cas-là, quand une enfant est enceinte et qu'elle n'est pas du tout formée pour accoucher, elle risque de mourir, l'enfant également. Donc, qu'est-ce que vous avez remarqué sur ce plan-là? On sait qu'on a beaucoup de cas encore en Afrique de grossesses précoces pour éviter ça.
Absolument, Nathalie, nous avons beaucoup de cas. Genre, dans le monde, déjà 830 femmes sur 100 000 meurent chaque jour au cours de l'accouchement. Mmh. Et les objectifs 2013-2016 voudraient diminuer ce taux à 70 pour 100 000. Mais pour faire cela, il y a un long chemin à faire.
Ouais.
La majeure partie de la population visée sont les adolescentes qui sont les plus grandes victimes de la mortalité maternelle.
Ah ouais.
Donc cela veut dire beaucoup de choses. Éducation, mariage précoce,
éviter les mariages précoces.
Voilà. Ouais. Mm-hmm. Et donc c'est vraiment un problème au niveau de la société et au niveau aussi des autorités sanitaires pour pouvoir faire de sorte que les jeunes filles soient beaucoup plus assistées.
Ouais.
Voilà.
Mais ça, c'est un peu généralisé en plus parce que on le retrouve également en Amérique du Sud, par exemple, les problèmes de jeunes filles enceintes très très tôt.
Voilà.
Ouais.
Voilà, c'est ça.
Entre parenthèses.
Je vous propose d'écouter à présent le professeur camerounais de sciences politiques Jean-Emmanuel Pondy pour un état des lieux dans son pays en ce qui concerne le taux de fréquentation des filles dans les filières scientifiques. On l'écoute.
Au Cameroun, il y a un engouement de plus en plus prononcé pour les filières scientifiques par rapport aux jeunes étudiantes qui sollicitent l'entrée dans ces écoles-là. Une université comme celle de Yaoundé 1 a un effectif de 50 000 étudiants. Il y a 48% d'étudiantes. Maintenant, dans nos écoles, en particulier l'École nationale supérieure polytechnique, qui est l'école scientifique et technologique par excellence, il y a 30% des effectifs féminins.
Est-ce que selon vous, les filles seraient moins intéressées par ces filières ou non?
Non, on constate réellement que c'est un mythe.
L'idée selon laquelle elle serait moins pour les mathématiques et plus pour les lettres, c'est un mythe.
Les prix, les premiers prix dans la plupart de nos grandes écoles sont raflés par les filles. Et les garçons se retrouvent au milieu du tableau souvent et non plus au haut du tableau. C'est pour dire que quand elles ont la possibilité de s'exprimer sur le plan académique, il n'y a aucun complexe. Que ce soit dans nos écoles de médecine, dans nos écoles d'ingénieurs comme l'École nationale supérieure polytechnique, ou bien dans les facultés de sciences, où on retrouve le même phénomène de qualité dans la performance. C'est pas simplement une performance, mais c'est la qualité dans cette performance au niveau des classements.
Donc ce qui veut dire que si on arrive à atteindre 50% de filles dans les universités, logiquement, on aura plus de filles diplômées que de garçons diplômés.
Et oui, incontestablement. Et même la qualité de ce diplôme est supérieure chez les filles. C'est mon constat de 30 ans dans le monde académique.
Est-ce que donc l'on aurait tendance à promouvoir l'accès des filières scientifiques pour les filles?
Oui, disons qu'il y a un certain nombre de blocages sur lesquels on travaille aujourd'hui, et notamment le harcèlement sexuel. Parce que c'est une des choses qui faisait partir un nombre important de jeunes filles. Mais là, maintenant, nous sanctionnons les comportements qui n'ont rien à voir avec l'académie.
Docteur Sona Konaté, merci beaucoup d'être avec nous. On est obligé de se quitter, c'est la fin de l'émission. À
merci
très bientôt.
Nathalie, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir, merci. Arrête.